Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Nuremberg, Allemagne, automne 1945. L'écho lointain du pas de loi résonne encore. L'odeur fétide de la mort flotte dans l'air, au milieu des tas de gravats. Mais les drapeaux et les grands rassemblements de foule sous les croix gammées appartiennent désormais au passé.
RTL.
Les marées de bras tendus pour le salut nazi se sont retirées. À présent, d'autres voix s'élèvent. Ce sont celles des millions de morts qui demandent justice.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Octobre 1945, c'était l'ouverture du procès de Nuremberg par une première séance qui avait eu lieu à Berlin. On vous racontera ça tout à l'heure. Et le verdict a pris 2 jours. Ça a commencé le 30 septembre pour se terminer le 1er octobre 1946, il y a presque 70 ans, jour pour jour. Et on vous raconte cette histoire avec Lionel Richard. J'appelle que vous avez participé au dossier du magazine Historia en partenariat avec RTL. On va peut-être incarner ce procès. Qui est jugé à Nuremberg ?
Pour juger les véritables criminels du régime nazi, la commission d'enquête américaine avait établi 1 million à peu près de noms.
Un million.
Et donc, c'était devenu quelque chose d'absolument impossible. Il fallait savoir qui on allait juger. Donc, il a été décidé de juger les grands criminels de guerre, ceux qui avaient véritablement mis le régime en place, participé à la réalisation de ses objectifs et qui étaient... présumé coupable.
Ça veut dire qu'il y a plus de donc 1 million moins 21 hommes jugés qui se sont retrouvés quoi, en liberté, qui n'ont pas été jugés ?
Tout dépend du degré de culpabilité. S'il avait fallu juger beaucoup d'Allemands, cette commission d'enquête avait établi 1 million de noms. Mais c'était juger tout un pays et il va y avoir, après le tribunal de Nuremberg, une dizaine de procès encore qui vont se poursuivre jusque sous la République fédérale d'Allemagne et la RFA pendant une dizaine d'années. Et donc, beaucoup qui étaient... qui avaient échappé au tribunal lui-même, vont se retrouver condamnés par d'autres tribunaux par la suite.
À Nuremberg, le plus important des accusés, c'est Göring, évidemment.
Bien sûr, c'est Göring, puisque les autres se sont suicidés, comme Hitler et Goebbels. Donc, reste Göring. Himmler s'est suicidé aussi. Mm-hmm. Donc, le grand, celui qui appartient dès le début au développement du nazisme à l'époque en Allemagne, sous la République de Weimar, c'est Göring.
Qui prononce la condamnation sur 2 jours, donc 30 septembre, 1er octobre ?
C'est le magistrat britannique qui est président du tribunal et qui s'appelle Geoffrey Lawrence.
Alors, il y a des condamnations à mort, il y a des condamnations à la prison et il y a des acquittements. J'ai eu cette surprise en préparant le dossier. Il y a 3 hommes qui ne sont pas envoyés en prison.
Oui, il y a 3 hommes. C'est d'abord le banquier Elmar Schacht, pour la bonne raison que Schacht, son activité sous le Troisième Reich, a cessé à peu près en 1939. Banquier, ministre des Finances, président de la Banque Nationale, de la Reichsbank. Bon, et il se trouve que Schacht n'a vraiment pas de chance dans la mesure où il a été plus ou moins suspecté d'être un opposant à Hitler et d'avoir... plus ou moins soutenu le fameux complot du 20 juillet 1944. Enfin, on l'a mis dans un camp de concentration pendant 10 mois.
Et donc, il se retrouve quand même le banc des accusés.
Voilà, il se retrouve quand même au tribunal de Nuremberg, vu son activité, évidemment, avant 1940, puisque sans Schacht, certainement que les finances allemandes n'auraient pas pu se relever aussi facilement.
Alors, on ne va pas pouvoir détailler l'histoire alors, des deux autres, Von Papen et Fritz.
Von Papen.
Très vite, donc, alors, d'un mot pour chacun.
Pareil, Von Papen, il n'a pas beaucoup participé au régime nazi lui-même, sinon qu'il a fini ambassadeur en Turquie, mais et le troisième,
Fritzsche, lui, il était directeur de la propagande.
Lui,
de la propagande
voilà,
quand même.
Hans Fritzsche était une sorte d'adjoint Goebbels parce qu'il était directeur de la radio. Et malheureusement, on n'a pas analysé tous ses discours à la radio, tous ses propos à la radio, et beaucoup ont pensé qu'il méritait véritablement autre chose que d'être innocenté.
Lionel Richard, on va raconter bien sûr ce procès de Nuremberg qui a duré 10 mois, mais d'abord, il faut expliquer le contexte et comprendre de quand date cette idée d'un tribunal militaire.
Tribunal militaire, c'est parce que tout simplement, on est en pleine guerre. Donc, il faut savoir qui participe à cette guerre parmi les ennemis et comment. Qui est coupable ? Quel est le degré de culpabilité ? Alors, évidemment, c'est en ce sens que, dans la mesure où il y a la guerre, c'est un tribunal militaire. Et ce sont les puissances alliées qui sont impliquées à l'origine de ce procès. La France va y venir, puisqu'il y a d'abord les trois grands, mais dans la mesure où nous avons, nous, l'État français avec Pétain, le gouvernement provisoire de la République française de Gaulle qui est à Londres, n'est pas représenté. Donc, il va être représenté à la fin. Donc, des trois grands, on passera aux quatre grands. Et quand les quatre grands, évidemment, seront réunis et d'accord pour établir un procès, à ce moment-là, le procès pourra avoir lieu.
Ce procès va prendre le nom de la ville qui l'a accueilli, procès de Nuremberg. Pourquoi les vainqueurs, pourquoi les alliés ont-ils choisi cette ville ?
Alors c'est un hasard d'une certaine manière. C'est vrai que Nuremberg était la ville des congrès du parti et que l'architecte Speer établissait justement tout le décor de ces cérémonies où il y avait des centaines de milliers d'hommes qui participaient avec des fêtes de gymnastique, etc., etc., un stade qui avait été construit. Bon, alors, c'est la réputation de Nuremberg, c'est la ville nazie par excellence, parce que c'était une véritable fête avec tous les artifices qui peuvent exister lors de la fête, les slogans, les affiches partout, etc., etc. Mais au moment où la guerre se termine, les bombardements ont commencé en janvier 1945 à Nuremberg. Il y a presque toute la ville qui a été détruite. On parle de 500 raids aériens anglo-américains et il reste dans cette ville une rue qui est assez large, qui est la rue des Princes, où se trouve précisément le palais de justice.
C'est tout ce qui a résisté en quelque sorte.
Et puis alors il y avait, bon, c'est ce qui a permis aussi la tenue à Nuremberg, il y avait le Grand Hôtel.
Oui.
Alors le Grand Hôtel pour abriter les journalistes. Et le château d'un fabricant de chocolat. Et donc, pourquoi Lucius Clay, qui est le général américain, qui connaît parfaitement la Bavière, c'est la zone d'occupation américaine. Et il est allé partout. À Munich, c'est absolument impossible. C'est pourtant là que sont fixées les unités de l'armée américaine. Mais il n'est pas possible à Munich de tenir un procès. Donc, il lui est conseillé de prendre Nuremberg. Et Lucius Clay conseille lui-même à Jackson.
Jackson, c'était le procureur américain
qui va être choisi pour
mener l'accusation,
mener les débats du procès, non pas présider, mais comme procureur véritablement au procès. Et Robert Jackson va se rallier à cette proposition. Donc c'est une part du hasard. Bien sûr, c'est bien, parce qu'en réalité, il y a toute une aura.
Et oui.
Qui est celle de la réputation de Nuremberg.
C'est ce qui est passionnant dans ce que vous nous racontez. Il y a du hasard et du symbole. Des symboles, il y en a évidemment tous les jours, toutes les minutes de ce procès hors norme. Il va durer 10 mois, il doit marquer les consciences. On va vous emmener dans les coulisses, vous allez voir pourquoi on filme les audiences pendant ces 10 mois.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Nuremberg, 70 ans après, on vous raconte l'histoire du procès des criminels nazis et c'est l'historien Lionel Richard qui est notre invité. Je rappelle que vous avez participé au magazine Historia qui consacre en partenariat avec RTL un dossier de 20 pages à ce procès. Et dans ce dossier, il y a une grande photo, un plan de la salle d'audience. Vous allez nous la faire visiter. Alors, elle n'est pas aménagée comme n'importe quelle cour d'assises, c'est ça ? Quelle est sa topographie ? Comment ça fonctionne ?
Ça fonctionne de sorte que des projections sont possibles d'abord. Ensuite, il y a tout le problème des langues à utiliser. Il faut donc des traducteurs et des interprètes. Donc il faut des cabines pour les interprètes. Et il faut également que l'on voie les accusés, d'une certaine manière.
Pour que ce soit exemplaire.
Pour que ce soit exemplaire.
Parce que le procès est filmé aussi.
Parce que ouais. Le procès est filmé.
Alors vous dites...
Et d'ailleurs si la disposition de la salle ne prévoyait pas cela, on n'aurait pas pu filmer. Il a fallu installer un néon précisément pour que les lumières sur les
accusés.
Visages des accusés... puisse permettre de voir la réaction des accusés.
Oui, parce que l'objectif, c'était de projeter, donc on a bien compris, il y a un écran au fond de la salle, là où normalement, et sont si j'essaye de me transposer dans une cour d'assises, c'est là qu'est le président du tribunal, ses assesseurs, il y a vraiment un écran qui occupe ce mur, avec évidemment des images des camps de concentration qui sont projetées, et les équipes qui avaient préparé le procès se sont dit, mais on baisse la lumière pour bien voir les images. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus les accusés.
Exactement.
Et donc, il fallait qu'on puisse filmer leur réaction, c'est ça?
C'est ça. Il fallait qu'on voit si les accusés éprouvaient quelque chose devant les horreurs qui étaient projetées. Parce que, évidemment, tout le procès de Nuremberg se déroule tout de même sur cette idée. Les crimes contre l'humanité. Donc, qu'est-ce qui est humain? Qu'est-ce qui n'est pas humain? Est-ce que c'est coupable? Ces accusés sont des êtres comme tout le monde.
Alors, ce qui est intéressant aussi sur cette salle d'audience, à noter, Lionel Richard, vous nous le faites remarquer, c'est que c'est très étroit. C'est-à-dire que la cour, la défense, les accusés, tout le monde est très proche pour se regarder dans les yeux?
Oui, absolument, pour qu'il n'y ait pas de distance du tout entre à la fois ceux qui assistent au débat, les accusateurs, les accusés. Et donc, effectivement, il y a une sorte de proximité entre... Ce qui fait que les discours ne peuvent plus avoir tout à fait le même sens. Dans la mesure où on ne va pas faire des discours qui durent des heures et des heures pour expliquer, par exemple, la culpabilité. On a l'accusé presque en face de soi et... De cette manière-là, le discours prend une autre forme.
Le magazine Historia, auquel vous avez participé, parle d'une super production hollywoodienne. On peut parler de mise en scène. Il y a une forme de mise en scène des aveux, des interrogatoires, de l'histoire en marche, en fait, en quelque sorte. C'est ça, c'est une mise en scène.
C'est une mise en scène. Bon, le tribunal, la salle du tribunal de Nuremberg, elle-même, elle était étroite. Oui. Elle était vieillotte. Et l'intérêt de situer aussi ce procès à Nuremberg, c'est qu'il y avait le palais de justice, mais il y avait tout. Il y avait la prison aussi. Ça formait une espèce de cercle. C'est-à-dire, les prisonniers pouvaient passer de la cellule au tribunal. Il a fallu aménager ce tribunal de sorte que ce soit... une forme de procès spectacle, c'est certain. L'idée d'Hollywood est derrière, d'autant que on prend des réalisateurs, des opérateurs qui ont travaillé pour le cinéma américain. John Ford, par exemple.
Le réalisateur John Ford.
Mais oui.
Qu'est-ce qu'il a fait pour ce procès de Nuremberg?
Mais il a filmé.
Mais il a filmé tout le procès.
Ben, tout le procès a été filmé par à la fois un Américain. Et d'autre part, un soviétique, le documentariste Roman Carmen. Et il a fallu d'ailleurs que les caméras soient également disposées d'une certaine manière à l'intérieur de cette salle.
Pour être discrète d'une certaine façon.
À la fois discrète et pour asseoir une certaine vision de la totalité du procès. Par exemple, Roman Carmen avait disposé 3 caméras à l'intérieur de la salle, plus lui-même... qui avait une caméra mobile à l'intérieur de la salle. Donc, si vous voulez, il y avait diverses visions de tout cela.
Alors, vous nous disiez, Lionel Richard, que ce procès s'est déroulé en plusieurs langues, et les traducteurs jouaient un rôle très important. Ils avaient même une sorte d'interrupteur. Pourquoi? À quoi servait cet interrupteur?
Il y avait un interrupteur qui permettait d'allumer une lampe en jaune quand le débit était trop rapide et qu'on finissait par ne plus pouvoir traduire. Vous savez, l'interprétariat de conférence, il faut absolument que l'on puisse saisir ce qui a été dit presque aussitôt.
Et certains témoins, sous le coup de l'émotion, parlaient trop vite.
Voilà. Et tout dépend des langues également. Par exemple, en ce qui concerne l'allemand, il faut toujours attendre à la fin de la phrase.
Parce qu'à
la fin
le verbe.
De la phrase, on a le verbe.
C'est vrai.
Bon, alors tout cela, c'est un problème donc de ralentissement qui était nécessaire dans le débit. Et il y avait une lampe jaune. Bon, on appuyait, et les traducteurs, les interprètes avaient la possibilité d'appuyer sur un bouton et une lampe jaune ne s'allumait. Et quand il y avait quelque chose d'incompréhensible ou alors qui ne collait pas dans ce qui était raconté de façon pas très audible, enfin voilà, il y avait une lampe rouge.
Et on faisait répéter.
Et on faisait répéter.
Alors tout est prêt, les audiences vont pouvoir commencer, Nuremberg retient son souffle, les criminels nazis vont bientôt entrer dans le box des accusés.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Avec le procès de Nuremberg, l'humanité se trouvait confrontée à une situation inédite, celle de juger de crimes d'une telle atrocité et d'une telle ampleur qu'il dépassait tout cadre juridique existant.
La curiosité est un vilain défaut.
Le véritable défi consistait à en faire le procès sans laisser dominer le désir de vengeance du vainqueur.
Jusqu'à 22h.
Dans l'esprit de justice et d'impartialité tant méprisé par les accusés.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On se transporte il y a 7 décennies, à l'automne 1946. Le procès de Nuremberg va se terminer dans quelques jours, le 1er octobre. Les 21 accusés ne savent pas encore qui parmi eux sera condamné à mort, envoyé en prison ou même acquitté. C'est ce que l'on a dit tout à l'heure, Lionel Richard, et ça rejoint la mise en onde que l'on vient d'entendre, mise en onde d'André Facetta, notre réalisateur. C'est un vrai procès, avec une volonté de justice.
Oui, toutes les discussions préalables entre 1941 et 1945 porte là-dessus. Est-ce qu'on fait un vrai procès ou non? Parce qu'on peut aussi exécuter brutalement absolument tous les coupables. Et Churchill n'était pas d'accord pour faire un procès public. Parce que ça exigeait justement de prouver la culpabilité et ensuite, évidemment, de porter un jugement. Et alors, c'est cette idée qui peut être d'ailleurs, sur l'influence à la fois soviétique et française, va percer et qui va faire que ce procès va être un véritable procès. C'est-à-dire, on va exposer les accusations, les faits qui sont reprochés, les coupables, présumés coupables, parce que au départ, justement, la culpabilité n'est pas prononcée, ils sont présumés coupables, et donc ils ont des avocats pour les défendre, ils peuvent eux-mêmes se défendre, ce que fera Göring, par exemple, pour répondre à certaines accusations, et enfin, il y a un jugement. Donc c'est un procès tout à fait nouveau en ce sens, parce que
C'est la première fois qu'une audience est filmée.
Il n'y a jamais vu dans l'histoire de procès de ce genre. En ce qui concerne la guerre 14-18, il y a dans le traité de Versailles une clause disant que Guillaume II doit passer devant un tribunal. Mais Guillaume II s'était déjà exilé aux Pays-Bas et les Pays-Bas n'ont pas voulu envoyer Guillaume II devant un tribunal. Donc, c'est la première fois.
Lionel Richard, ce qui est passionnant avec l'histoire, c'est que ça nous permet évidemment aussi de parler et de prendre conscience de notre présent. Est-ce qu'on peut imaginer dans quelques années un procès d'Alep? Quand on voit ce qui se passe en Syrie, cette ville qui est complètement détruite par Bachar al-Assad, son propre président, et par les Russes?
La Cour pénale internationale, c'est un peu la continuation.
Ce sont des crimes de guerre, il y a des criminels.
Du procès de Nuremberg. L'idée de Robert Jackson, lorsqu'il ouvre le
Donc
procès de Nuremberg,
le procureur principal, hein, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent.
Il fait un très beau discours, il explique pourquoi ce procès a lieu, et il dit à la fin, justement, pour la première fois, aujourd'hui on parle de coupables qui sont allemands, mais pour la première fois, il est envisageable de voir des hommes d'État qui seraient portés devant un tribunal et responsables de leurs actes.
Donc c'est possible qu'un jour Bachar al-Assad...
On verra bien. On repart, ce 20 novembre 1945. La première audience va commencer à Nuremberg. Comment les accusés font-ils leur entrée? Est-ce qu'ils sont montrés à... Je ne sais pas s'il y a de la foule à l'extérieur. Est-ce qu'ils sont montrés à la foule?
Non. Justement, on évite ce côté un peu de voyeurisme, finalement, parce que ce sont des personnages... important. Et en plus, le nazisme, vous savez, il est loin d'être écrasé hein, à l'intérieur de l'Allemagne à cette époque-là. Il y a encore beaucoup de partisans. Et donc, ils ont une entrée dérobée, on va dire, ce qui fait qu'on ne les voit pas véritablement. Quand on voit ces personnages arriver devant leur table, on est absolument étonné parce que on n'a plus du tout les personnages que l'on avait pendant la guerre ou même avant 1930.
Ils ont perdu leur superbe, quoi.
Oui, ils ont perdu non seulement leur superbe, mais ils sont bien soignés. Quelqu'un qui les rase dans leur cellule tous les matins.
On fait en sorte qu'ils soient présentables.
Si vous voulez, voilà, ils sont présentables. Ce ne sont pas des militaires brutaux et
on pourrait croire que c'est monsieur et madame tout le monde, enfin voilà, monsieur tout le monde en l'occurrence. L'objectif de ce tribunal,
ils sont
de...
civilisés hein, voilà.
Alors ils sont civilisés, sauf que évidemment l'objectif de ce tribunal de Nuremberg, c'est de prouver les crimes nazis. Film à la pluie, quelles sont les images qui vont être projetées sur ce fameux grand écran qu'il y a au fond de la salle?
Alors durant les mois, il y en a au moins deux, si vous voulez. Il y a un film qui est proposé par le procureur Jackson, qui sont les images filmées par l'armée américaine lorsqu'elle a découvert les camps de concentration. Et ce sont des images extrêmement fortes parce qu'on y voit essentiellement des cadavres. Et il y a, par exemple, le bulldozer qui est utilisé.
Pour charrier les cadavres.
Pour charrier les cadavres. La nécessité, tellement il y avait de cadavres, d'utiliser le bulldozer. C'est quelque chose qui produit une impression absolument extraordinaire. Ça, c'est un film qui a été fait donc par les Américains, les auteurs de films documentaires de l'armée. Et parce que, tout simplement, les films originaux tournés par les Allemands n'ont pas pu être découverts et utilisés.
Alors comment réagit la salle, comment réagissent les accusés à la projection de ces images, à ces preuves de la Shoah? Réponse dans un instant.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Si vous nous écoutez régulièrement de 20h à 22h sur RTL, vous savez qu'on vous raconte les grands événements de notre histoire. Pardonnez-moi. Aujourd'hui, on est remonté 70 ans en arrière jusqu'au 1er octobre 1946 pour assister au verdict du procès de Nuremberg. Et c'est l'historien Lionel Richard qui nous raconte ces audiences cruciales. Vous nous parliez de ce grand écran qui diffuse des images terribles. On voit par exemple ce film avec les Américains qui découvrent les camps de concentration et ces centaines de milliers de corps qui sont charriés par des bulldozers. Ce sont des images forcément très fortes. Quelle est la réaction à la diffusion de ces images dans la salle? Il y a du public, il y a les magistrats.
Une émotion terrible.
Il y a les accusés.
Une émotion terrible. Et c'est là où se rejoignent finalement ceux qui sont dans la salle et les accusés, parce que les accusés prétendent n'avoir jamais connu, puisqu'ils plaident non coupables, n'avoir jamais connu ces camps de concentration et ces exterminations. Et certains, comme Schirach, par exemple, en perd son souffle, Göring s'arrache les écouteurs des oreilles. Enfin, les réactions de ces accusés sont également une espèce de gouffre dans lequel ils sont pris, parce qu'ils n'ont jamais été en contact véritablement.
Mais c'est vrai, ça ?
Avec ces horreurs, mais oui.
Ils l'ont organisé, plupart, mais ils n'y sont pas forcément allés.
Ils ont donné des ordres, ils ont mis en place une administration, mais ceux qui ont véritablement visité des camps de concentration et des camps d'extermination sont encore plus rares. Hein. Si vous excluez évidemment Himmler, Heydrich, son adjoint au début, en 1941-1942, Hitler n'est jamais allé dans un camp de concentration.
Est-ce que c'était une volonté de... Parce qu'il pouvait anticiper éventuellement une issue négative de la guerre. Est-ce que c'était une volonté de rester en retrait de ce qu'ils avaient organisé ?
Tout simplement, pour tuer de cette manière-là, il faut rester toujours à distance. Et ouais. Himmler lui-même, dans certains de ses discours, avait de la pitié pour les soldats et les SS qui devaient commettre ces crimes ou y assister. C'était quelque chose qui ébranlait, d'un point de vue émotionnel, ces soldats, s'il leur restait encore quelque chose d'humain.
Est-ce qu'il y avait une stratégie commune de ces 21 accusés avec un Göring, donc très haut personnage de l'État nazi ? Est-ce qu'il avait insufflé une stratégie à l'ensemble des accusés ?
Une ligne de défense, en quelque sorte.
Une ligne de défense, c'était, la ligne de défense était plaider non coupable. Et le seul coupable, finalement, c'était Hitler. Quand vous lisez les comptes rendus de ces procès, eh bien, c'est Hitler qui a tout commandé. C'est typique, par exemple, de Keitel, du maréchal Keitel, donc chef des armées. Mm-hmm. Le stratège unique, c'était Hitler qui avait un génie extraordinaire. Donc, il était responsable de tout. Et c'est quelque chose qui passe absolument à travers toutes les réactions de défense de ces accusés. Cela dit, ils réagissent tout de même différemment selon leur degré de résistance à l'émotion, justement.
Mmh. 11 de ces accusés seront condamnés à mort. Ont-ils tous été exécutés, pendus ?
Alors, pas 11 ont été condamnés à mort, mais il y a 10 pendus uniquement.
Pourquoi ?
Ben parce que Göring s'est suicidé.
Bien sûr.
Bon, et d'autre part...
Il s'est suicidé comment ? Tiens, pardon, je vous interromps.
Oui. Il s'est suicidé avec une ampoule de cyanure qui lui aurait été donnée, et évidemment on discute cette version, par un officier SS à la fin de l'une des séances. Cet officier SS... Bart Sielewski, il aurait été appelé comme témoin au tribunal. Et au moment où Göring quittait la salle, dans le couloir, il lui aurait serré la main et donné une ampoule. C'est ce que cet officier SS a raconté lui-même en 1951. D'autres interprétations, c'est qu'il y aurait eu une connivence avec des officiers américains, vraisemblablement, pour qu'il ait cette ampoule de cyanure. Mais personnellement, j'en doute. Hein, je crois beaucoup plus à la version de cet officier SS.
Qui témoignait
et
qui ne faisait pas partie des accusés ce jour-là. Merci beaucoup, Lionel Richard. Je renvoie évidemment à la lecture du magazine Historia consacré à ce procès de Nuremberg. C'est en partenariat avec RTL. Il y a notamment une tribune de Serge Klarsfeld à lire dans ce dossier. Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.